La glaneuse d'images que nous rencontrons aujourd'hui s'appelle Milena Bochet. Milena, c'est une enfance à Lisbonne, des parents politisés, un père poète. Sa rencontre avec Luisette Faregno est fondatrice dans son devenir de documentariste.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée.
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
J'avais 13 jours quand je suis arrivée au Portugal parce que donc mon père avait ce nouveau boulot de prof de français à Lisbonne. Donc mes parents venaient de s'installer, mais ma maman voulait accoucher en Espagne parce qu'elle connaissait les hôpitaux espagnols et elle ne connaissait pas du tout les soins de santé au Portugal. Donc pour ne pas prendre de risques, elle a accouché à Madrid. Et à 13 jours, on a rejoint la famille, donc mon père et mes sœurs à Lisbonne. Lisbonne, pour moi, c'est déjà la lumière. C'est le pays des sept collines. C'est aussi la révolution des œillets. C'est d'ailleurs un petit peu après, on est parti vers la Belgique. J'ai peu de souvenirs de ce temps de dictature, mais je me rappelle la joie de mes parents. Vraiment, le jour de la révolution, la joie du pays. C'était ça, je me rappelle qu'il y avait vraiment un grand bonheur dans le pays. Voilà, donc je suis arrivée à Bruxelles. Je me rappelle le jour où on est arrivé. On est arrivé en voiture. On avait des cages d'oiseaux, des cages d'hamsters. C'était absolument folklorique. Quatre têtes noires, moi et mes sœurs. Et je me rappelle qu'on a été accueillis par des jeunes en patin roulette qui sont venus auprès de nous pour savoir qui on était. On était vraiment un peu des ovnis qui arrivaient à Bruxelles. Mon adolescence n'a pas été hyper facile pour des problèmes familiaux qu'il y avait. Donc c'était une époque où vraiment j'avais besoin d'air et j'avais besoin de sortir. J'avais une sœur qui n'allait pas bien. Et donc j'avais besoin de cet air et j'avais demandé, je voulais absolument avoir une mobylette. Mais d'une part c'était très cher, d'autre part c'était dangereux. Donc mes parents m'ont dit non pour la mobylette, mais ils m'ont offert une caméra Super 8. Et voilà, ça a été mon voyage, pas en mobylette, mais avec cette caméra Super 8. Donc je commençais aussi à avoir ce goût de la photo, parce que je faisais beaucoup de photos, et puis le Super 8. Et en fait, ce que j'aimais surtout, c'était ce temps suspendu entre la prise de vue et le développement, qui faisait que quand on découvrait les images, c'était merveilleux. L'œil se réouvrait, en fait, au moment de découvrir l'image développée. Mon objectif, c'était partir de la Belgique. Donc, je ne suis pas allée très loin, je suis allée à Lille. Et comme j'étais bonne en lettres, parce que, en fait, mes parents... mon père était prof de français, ma mère aimait aussi lire... Et voilà, on était quand même baigné dans une ambiance de livres, d'écriture, tout était prétexte à raconter des histoires. Je me rappelle d'un chat boiteux qui passait par là. Après, notre père nous proposait d'écrire un conte sur ce chat qu'on avait vu le matin. Donc tout était, et ça c'est quelque chose de merveilleux, que je trouve vraiment merveilleux, parce que c'était tout à fait ludique pour nous, c'était pas un travail. C'était quelque chose de ludique et on faisait au mieux en cherchant les mots qui convenaient le mieux à l'histoire. Et mon papa, c'était quelqu'un qui voyait la beauté dans les toutes petites choses, en fait. Tout était prétexte à être une histoire. Aussi, ce souci de garder toujours en lui un l'œil émerveillé de l'enfant, je dirais. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il m'a transmis. Donc j'étais assez bonne en lettres et je me suis dit, bon, c'est facile, je vais faire des études de lettres. Mais je ne voulais pas devenir professeure. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une option en filmologie à Lille avec une prof tout à fait incroyable, Louisette Faregno, et je la remercierai encore et toujours de m'avoir transmis sa passion. Donc, elle était professeure de cinéma et elle était militante. Elle était très militante. Elle faisait des films à l'époque sur les mineurs du nord de la France. Et elle était dans toutes les manifestations. Et voilà. Donc, elle était dans la réalité de ce qui se passait à ce moment-là. Et en même temps, dans l'histoire du cinéma. Donc, avec elle, j'ai appris vraiment à connaître l'histoire du cinéma, particulièrement le cinéma français. Et j'ai fait partie aussi, il y avait un ciné-club à la fac de lettres. Et là, c'était un peu mon espace de liberté. Après, voilà, c'était vraiment ma famille. C'était ma nouvelle famille, ce ciné-club. Et donc, on organisait des rencontres avec des réalisateurs. Et voilà, je passais des soirées entières à la fac de Lille. Et en même temps que je faisais ma licence de lettres, j'étais à Madrid. Toujours un peu ce désir d'être dans plusieurs pays, plusieurs cultures. Et à Madrid, j'avais commencé des études aussi d'audiovisuel, mais qui étaient extrêmement théoriques. Et puis, j'ai fait une maîtrise après à Paris, en même temps aussi que la maîtrise à Lille. Je continuais toujours mes études à Lille. Et de nouveau, c'était assez poussé, mais de nouveau très théorique. Et j'ai voulu, du coup, passer de l'autre côté et faire des films. Ne pas être toujours dans l'analyse de films déjà faits, mais d'en faire moi-même, d'en fabriquer. J'ai passé le concours de l'INSAS en montage, parce que je m'intéressais au montage déjà. Par l'analyse des films, j'avais perçu que le montage était une étape importante du film. Donc je me suis inscrite en montage. Et au moment du concours, on m'a dit, par rapport à mon parcours, mais est-ce que tu ne préfères pas aller en réalisation ? Et donc j'ai dit OK pour la réalisation. Et là, on m'a dit, voilà, il y a une place en scénario, section scénario, qui était une section un peu fantôme. Et donc, j'ai été admise en section scénario. J'étais la seule élève en scénario. Je n'ai pas eu des cours spécialement de scénario autres que les autres étudiants de ma classe. Mais j'étais dans la section réalisation. J'étais heureuse d'être rentrée à l'INSAS. Et à l'INSAS, j'ai vraiment découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'était le documentaire. L'intérêt pour les Roms m'est venu de façon tout à fait hasardeuse. Je suivais un atelier de cinéma d'animation et à ce moment-là, je parlais des Roms et en entendant la personne qui animait cet atelier d'animation, en m'entendant parler des Roms, m'a dit « mais je connais, si ça t'intéresse, je connais deux femmes en Tchéquie qui sont professeurs de langue romanesque et qui sont fantastiques. » Donc j'avais ce petit papier avec le numéro de téléphone de Anna et Edita, et je me suis décidée un jour de les appeler. Et donc je suis allée à Prague, je les ai rencontrées, et tout de suite elles m'ont dit, si tu veux, on va de village en village, et comme ça tu rencontreras nos amis roms. Et je me rappelle, bon, on a été dans quelques villages roms, et voilà, on arrivait dans les cabanes, et on écoutait les histoires des personnes qu'elle connaissait. Donc Anna et Edita, en fait, elles m'ont fascinée parce qu'elles faisaient un travail anthropologique de la langue. Donc elles allaient de village en village, elles enregistraient avec un petit enregistreur les histoires et après, avec ces enregistrements, elles donnaient cours à Prague. Elles faisaient de la linguistique, de l'histoire, de la géographie, de la poésie avec ce qu'elles avaient enregistré. Et je trouvais ça fabuleux comme démarche. quand on est allé ensemble, donc de village en village, on est passé par un village qui s'appelait Gera. Et là, dans ce village, il y avait un petit garçon, Gaïza, qui était, je voyais qu'il était différent, qu'il avait un regard extrêmement grand et lumineux. Et puis, petit à petit, j'ai su qu'il était malentendant. D'où sa différence, son rapport différent aux personnes et ses yeux très, très éveillés. Et donc, je leur ai dit, ah, mais moi, j'aimerais bien retourner dans ce village et peut-être faire un film avec ce petit garçon. Et donc, on est retourné. Entre-temps, je m'étais aussi documentée sur ce peuple rom. Et voilà, et aussi déconstruire tous les clichés. Il y a beaucoup de sous-groupes. Donc, rom est le mot générique, ça veut dire homme, avec un grand H. Et dans ce groupe générique, il y a plein de sous-groupes. Donc, il y a les roms qui sont sédentaires depuis très longtemps, qui viennent des pays de l'Est. Il y a les Vlaks qui, eux, sont nomades, semi-nomades, qui travaillent beaucoup avec les chevaux, la vente des chevaux. Et puis après, en Europe de l'Ouest, il y a les Sinti, il y a les Manouches. En Europe du Sud, il y a les Gitans. Donc, je découvrais tout ça, tous ces sous-groupes avec des cultures, des modes de vie différents. Je voulais montrer la richesse de ce peuple à travers des personnes que je rencontrais et que j'aimais. Parce que, en fait, tous mes films sont venus de rencontres de personnes que j'ai aimées, en fait. Je ne peux pas faire un film sur quelqu'un que je n'aime pas, qui n'est pas un ami.
Il me mira como ando muco, trae la tu. Y trae la tu y andré ma porto, quiero. Il me mira como ando muco, hoy chiricho.
Alain Sage, j'ai fait des films, quelques films, mais le premier film après l'inceste, d'ailleurs c'était mon mémoire, c'était ce portrait de Gaïza. J'avais envie vraiment de m'immiscer, enfin, d'être avec eux, c'était très important. Donc j'ai passé beaucoup de temps aussi en repérage. Pour moi, les repérages, c'est extrêmement essentiel, des repérages longs. Des moments où on ne filme pas, qui sont presque plus importants que ce qui reste dans le film, où j'ai aussi appris la langue. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir communiquer avec eux dans leur langue. Et d'ailleurs, les échanges changent complètement. Dès que tu connais même quelques mots, tout de suite, ils se disent « Ah, ben, c'est quelqu'un qui s'intéresse à nous ». Et aussi, bon, aussi le fait, peut-être que je suis un peu aussi basanée. Souvent, on m'a pris pour une Rome là-bas. On me prenait pour une Rome. Je n'avais pas du tout le physique d'une Slovaque. J'avais plutôt le physique d'une Rome. Ce qui m'a d'ailleurs posé parfois des problèmes de discrimination dans les villages slovaques où j'étais refusée dans un restaurant. J'étais, quand je m'asseyais... devant, dans un bus, on me regardait de travers. J'ai vécu aussi de l'intérieur, même si voilà, moi j'avais une position privilégiée, j'ai vécu de l'intérieur cette discrimination au quotidien des Roms. Et ça aussi, je voulais que ça transparaisse dans mes films. Et alors aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les esprits. Toute cette culture des esprits qui est très forte chez les Roms. Donc les Roms, ils ont épousé dans leur longue pérégrination depuis l'Inde, ils ont épousé les religions de là où ils se sont installés, mêlées de leur propre animisme. Et donc, il y avait ces esprits qui revenaient, qui reviennent parfois de manière bienveillante, parfois de manière malveillante, où ils rendent des comptes à des personnes qui ont des dettes, par exemple. Et donc, on a peur de ces esprits. Et on essaye... que leur mort soit paisible pour qu'ils ne puissent pas revenir. C'était un conteur naturel qui racontait ces histoires d'esprit, mais qui était aussi réparateur de télévision. C'est lui qui réparait toutes les télés et qui avait le contrôle du courant électrique de toutes les télés du village. Et donc, quand il voulait, il débranchait le courant. Donc voilà, c'était un peu tout ça, Beaux-Arts, avec un personnage qui a énormément d'humour, et dans des cabanes où il y avait aussi de la promiscuité, mais de l'amour, un immense amour. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez les Roms, c'est aussi cette explosion de vie. Il y a vraiment une explosion de vie malgré toutes les souffrances. La vie est plus forte, la vie est vraiment, elle éclabousse quoi. Et puis voilà, et puis ça m'a amené au troisième film, Cheveux rouges et café noir, et cette merveilleuse Ishka, qui est un peu ma mère rome, qui a été un peu ma mère rome, voilà, qui m'a accueillie de manière grandiose dans sa petite cabane. Et c'était, voilà, là c'était un film plus centré sur les femmes, sur ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Elle me fascine, parce que malgré toutes les difficultés, elle continue. Et c'est vrai que les femmes roms, elles sont extraordinaires, parce qu'elles, parce que souvent, malheureusement, les, pas tous évidemment, hein, y en a beaucoup dans le village, d'ailleurs Hindo, le jeune qu'on voit dans Cheveux rouges et café noir, qu'on voyait aussi dans Beaux-Arts, qui raconte aussi très bien les histoires, lui il est magnifique, c'est une personne magnifique. Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont géniaux, mais beaucoup d'hommes, comme ils sont au chômage, comme il y a un fort taux de chômage en Slovaquie, les hommes traînent et vont souvent dans des bars, boire. Il y a aussi beaucoup qui sont en prison, c'est vrai. Et donc les femmes, elles doivent gérer. Elles doivent gérer l'éducation de leurs enfants. Elles doivent être fortes pour être là pour leurs enfants et pour tenir la maison, pour tenir la vie, quoi. Et voilà, et Ishka est l'une d'entre elles. Indianka, sa fille aussi, est l'une d'entre elles. Et c'est ça, oui, c'est ça qui m'a portée vers elle. Pour moi, il y avait aussi cette nécessité de parler d'un fait terrible qui s'est passé chez les Roms, c'est la stérilisation des femmes, une stérilisation forcée de masse qui s'est faite des années 70 à 90, où il y a eu vraiment, pour moi, un génocide fait par les médecins et l'État, où voilà, les femmes roms, à leur insu, étaient stérilisées après des accouchements. Voilà. Et donc, il y a une femme dans le film Cheveux rouges et café noir qui en parle. Et je voulais vraiment en parler parce que c'est quelque chose, d'ailleurs, qui s'est encore poursuivi dans les années 2000, au cas par cas, plus de façon massive. Mais il y a encore des médecins qui ont pratiqué cela. Pour ce qui est de mon film de Lola Laila, c'est un film qui était là dans ma tête depuis très 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 longtemps. Parce que c'était une histoire, mon histoire familiale avec voilà, mon grand-père espagnol qui était du côté des franquistes, qui me pesait en fait. Ça me pesait énormément. J'arrivais pas à le dire quand j'étais avec mes amis, j'arrivais pas à parler de ce côté-là de ma famille. C'était... Pour moi, c'était une grosse honte, alors que voilà, c'est quelque chose, tu choisis pas ta famille, et c'est pas parce que tu as un grand-père franquiste que toi tu vas l'être, au contraire. Et en fait, le film m'a libérée, et c'est très curieux parce qu'un film, tu le dis à tout le monde, et encore, tu vas encore plus au-delà de ta sphère des amis, tu le dis à plein de gens que tu ne connais pas. Après, voilà, ma mère est quelqu'un qui raconte, enfin qui a une énorme mémoire et qui raconte très bien les histoires. Et souvent, elle nous racontait des bribes de son histoire. Et je voyais aussi en elle une femme, une battante aussi, qui a cassé beaucoup de barrières, qui a fermé et ouvert des portes. Et voilà, et je me disais, je suis fille d'une femme battante, il faut que je le dise.
Ma mère s'appelle Dolores. Ma grand-mère s'appelait Lolita. Mon arrière-grand-mère s'appelait Lola.
L'Espagne, c'était vraiment le moment des vacances. Donc, j'allais effectivement chez mes grands-parents, qui étaient très affectueux. Hein. C'est pas, voilà, c'était mon grand-père, c'était ma grand-mère. Ils étaient, avec mon grand-père, j'ai appris à lire l'espagnol. Il prenait beaucoup de temps à ça et beaucoup de joie à nous apprendre à lire, à jouer à des jeux de dames, etc. Mais il y avait, oui, il y avait quand même une ambiance. Je me rappelle des tantes, donc des sœurs de mon grand-père, qui étaient terribles. Et à chaque fois qu'on allait chez elles, c'était un cauchemar. Pour ma mère, ça a été, oui, ça a été assez radical, parce que quand elle a eu 23 ans, déjà, en fait, elle... donc, au début, quand elle était enfant, elle ne comprenait pas trop. Elle venait d'une famille où mon grand-père, il n'avait pas fait la guerre, en fait. Il n'a pas fait la guerre parce qu'il était très myope. Voilà, c'était pas possible pour lui de faire la guerre. Donc, dans la famille, il y avait des enfants de caïdos. Ce qu'on appelle caïdos, c'est ceux qui étaient tombés. Voilà, donc, les familles de caïdos avaient des privilèges. Et ma mère, elle n'était pas d'une famille de caïdos. Donc, elle était du camp franquiste qui avait gagné, mais elle n'avait pas de privilèges. Donc, ils vivaient de manière assez modeste, mes grands-parents. Et donc, elle ne comprenait pas très bien. Et puis, elle a commencé à comprendre qu'il y avait deux Espagnes avec les femmes de ménage qui venaient travailler chez mes grands-parents. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu un peu plus d'argent et ils ont eu donc une femme de ménage. Et là, dans la cuisine, les femmes de ménage parlaient de ce qu'elles avaient vécu aussi. Et c'est là qu'a commencé un peu la conscience politique de ma mère. Plus tard, elle a rencontré un étudiant marxiste qui lui a fait découvrir des livres qu'elle méconnaissait complètement. Et puis ça a été après mon père, qui était français, professeur, etc. À 23 ans, elle a décidé de claquer la porte pour pouvoir faire justement des études. Elle a commencé à travailler pour pouvoir payer ses études, etc. Et donc, elle n'a plus vu ses parents pendant un certain temps. Donc, ça a été très dur. Ça a été un geste radical. Après, il y a eu, j'imagine, qu'elle a dû faire un pas pour essayer de se réconcilier. D'ailleurs, ça a été aussi un moment très... où elle avait peur quand elle a dû présenter mon père français qui avait des idées de gauche à ses parents. Elle avait peur qu'il ne soit pas accepté. Heureusement, il a été bien accepté. Donc voilà, mes grands-parents ont fait aussi... ma grand-mère, elle n'était pas politisée du tout. Elle aimait la vie, en fait. Ma grand-mère, elle aimait vraiment la vie. Et d'ailleurs, la politique a toujours été tabou. On ne parlait pas de politique. On ne pouvait pas parler. Je me rappelle, à l'adolescence, on nous disait, ne parlez surtout pas de politique avec vos grands-parents, parce que ça va partir en guerre. Donc voilà. Au départ, avant même de vouloir faire un film sur ma mère et son histoire, il y avait cette histoire de la Mariquita Pérez, qui est une poupée que ma maman a toujours, qui était symbole d'une certaine Espagne, d'une certaine frange de l'Espagne. Et c'était vraiment la poupée de la société, de la bonne société, des filles franquistes. Il n'y avait d'ailleurs que les filles franquistes qui pouvaient s'acheter cette poupée parce qu'elle était chère. Et en plus, les habits de cette poupée étaient confectionnés par des prisonnières. Et c'était incroyable. Je trouvais cette histoire incroyable. Je me disais, mais il faut que je fasse un film sur cette Mariquita.
J'imagine la petite fille avec sa poupée, devenant ainsi une petite mère. Cette petite fille, par effet de mimétisme, se met donc elle-même à s'habiller de la même façon que sa poupée. Aussi sage, aussi bien.
J'ai retrouvé dans mon frigo une pellicule de Super 8 que j'avais complètement oublié de développer. Et cette pellicule, d'ailleurs, était toute mouillée. Je me suis dit, mais je vais quand même essayer de la développer. Et magnifique surprise, il y avait beaucoup de végétaux, donc de la moisissure qui s'était incrustée dans la pellicule. Et c'était les premiers pas de ma fille Layla. Et je me suis dit, mais ça c'est incroyable, il faut que je le mette dans le film aussi. Parce qu'il y avait une lutte entre le visage de ma fille et ses végétaux. Et il y avait vraiment une espèce de lutte et de comment prendre sa place, comment ce visage prend sa place au milieu de tout ça qui l'envahit. Donc il y avait vraiment ce truc de la vie contre la mort, contre la dictature, le fascisme, le mouvement contre... le mouvement libre contre un mouvement saccadé et rythmé des militaires. Voilà, il y avait tout ça.
Devant moi, la sage-femme, ses mains en sang, rouge, placenta marginal. Sur le lit, je regarde les visages qui se penchent sur moi. Plusieurs infirmiers, là, je sens la tension. Je sens la respiration, la mienne, la leur, la tienne. À l'intérieur de moi, la vie. Je te sens venir, je respire et de toutes mes forces, je crie la vie. Une fille, tu es là. Layla, c'est ton prénom.
J'ai deux filles, donc Layla et Sarah. Toutes mes filles parlent quelque part de transmission. Bah, j'essaie de leur transmettre des belles valeurs. Et j'essaie de leur transmettre une certaine force. Même si on est tous fragiles. Mais qu'il y ait cette force de faire les choix que tu as envie de faire. Parce que c'est ça aussi, en fait, quand on parlait de Lola à Layla. En fait, Lola à Layla, c'est vraiment le fondement de Lola à Layla, c'est être libre de penser ce que tu veux penser. Et que les dictatures ont complètement escamoté, détruit. Donc c'est vraiment ça, c'est faire ce que tu as envie de faire, cheminer là où tu veux cheminer. Je suis en écriture depuis longtemps, ça fait 5 ans qu'a démarré cette idée de film. C'est un film que je veux faire avec un ami, puisque j'ai dit que voilà, mes films sont toujours issus de rencontres d'amitié. Et donc, Stipan est un Rom de Serbie. Il a quitté son village à l'âge de 13 ans. Donc, il a vécu en Belgique et il est passé par des périodes d'assimilation complète parce qu'il voulait vraiment se fondre dans la foule. Et maintenant, il est dans l'affirmation de son identité Rom. C'est une idée de film qui a démarré un jour où je l'ai rencontré. Il présentait son livre « Lettre d'un petit enfant rom » à sa grand-mère croate. Et en fait, il s'est présenté en disant « Je suis serbe et croate, j'appartiens à la minorité rom, je suis belge et je suis un homme ». Et déjà, tout cela m'a touchée parce qu'effectivement, on est... d'appartenance, on est des appartenances multiples, on n'est pas une seule identité. Notre passeport n'est pas notre identité, on est beaucoup plus que ça. Et tout cela, ces identités aussi, celles qu'on cache et celles qu'on met en lumière par rapport à la grande histoire. Parce qu'il y a des moments où, pour survivre, on doit cacher son identité. Et pour survivre, on doit l'affirmer. Et en fait, voilà, la vie, en fait... quelque part, la vie est un grand film fait de rush, avec des moments où il y a des sélections de bribes, de choses vécues, et on en fait des films, on en fait des moments d'arrêt. Mais la vie est tous ces rushs, des rushs d'odeurs, des rushs de couleurs, des rushs de rencontres.
Vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcast.